Vous écoutez France Culture.
Les ouvriers, on le dit pas souvent, parce qu'on n'a pas l'occasion, parce que souvent, la société leur a donné le complexe « t'es ouvrier, donc t'es pas grand-chose, t'es bas de gamme ». Et on n'avait pas du tout ce rapport avec Henri. Et donc, il a libéré cette parole, il a traité avec nous d'égal à égal. Et j'allais dire, sa présence nous confortait aussi beaucoup. Henri Pezera, un homme incorruptible. T'as pas assez de force. Un homme incorruptible, faudrait qu'on le dise avec de la force. Henri Pezera, un homme incorruptible. Une émission de Guillaume Baldi et d'Inès Leroux. Leroux. Henri Pezera, l'incorruptible. Mais quand même, Henri Pezera, moi je préfère et ça reste l'homme de l'amiante. L'homme sans qui le scandale de l'amiante aurait peut-être pas été découvert, ou tellement plus tard.
Henri Pezera, l'homme de l'amiante, premier temps, le temps des prises de conscience. Cet homme se racontait peu. Il est resté si humble et si discret que nous avons peiné à retrouver sa voix dans les archives. Henri Pezera est mort le 16 février 2009, à l'âge de 80 ans, après 35 ans de combat pour la santé au travail. Si des milliers d'ouvrières et d'ouvriers de diverses industries ont été reconnus comme victimes de maladies professionnelles, c'est en grande partie grâce à lui. Sa première lutte, la plus longue et la plus importante, c'est celle contre l'amiante. Elle commence à l'université Jussieu, où le chercheur en cristallographie avait un bureau, et se termine 30 ans plus tard, avec l'interdiction de la fibre. Cette lutte est menée avec, entre autres, les ouvriers d'Amisol, une manufacture d'amiante basée à Clermont-Ferrand et où travaillaient Marie-Jeanne Auturquin et Josette Rouder.
Alors moi, j'étais confectionneuse de matelas, calorifugeur. Je travaillais le tissu d'amiante, donc je coupais le tissu d'amiante et je le cousais. Et ça partait ou pour la marine, ou pour Michelin, ou pour la SNCF. C'était ça mon travail à moi.
Et vous faisiez quoi au sein d'Amisol ?
Moi, j'ai travaillé 8 ans à Amisol à l'atelier tressage. C'était l'atelier dans le bâtiment qu'on appelait la filature. Mais il y avait donc des tresseuses, donc c'était des machines qui faisaient des petites gaines d'amiante, des tresses, des nattes d'amiante. Et puis après, j'ai travaillé sur une machine qui s'appelait le bourrelet KB. Et on faisait des gros rondins de... Il y avait une tresse, une gaine d'amiante et à l'intérieur de la mozite aussi, de l'amiante. Donc voilà, on faisait ça. C'est vrai que c'était un boulot pourri, bien sûr, dans des locaux pourris.
Et c'est comment exactement l'amiante ?
C'est un peu rugueux. Enfin, c'est une pierre à l'origine. Mais nous, on l'avait déjà, elle était déjà concassée, elle était déjà... C'est filandreux, ça pique. Puisqu'on en a... Moi, j'en ai plus dans les doigts, mais j'en avais dans les doigts pendant très, très longtemps. Et bon, c'est surtout la poussière qu'il y avait avec cette amiante. C'était incroyable. Il y en avait partout, partout, partout. Mais je crois qu'on n'y voyait plus. Parce qu'on est pris par le travail. On s'habitue à ces locaux.
On n'appelait pas Amisol. Où tu travailles, je travaille à l'amiante. Et donc, ça faisait partie de... Il y en a qui travaillaient à la Sécurité sociale, d'autres à EDF et d'autres à l'amiante. Voilà, et d'autres chez Michelin, ils font des pneus. Nous, c'était dans la nature de l'activité, on travaillait à l'amiante. Et ça ne voulait pas dire danger quand on parlait de l'amiante. Des fois, les anciennes disaient, fais attention, il y en a qui en ont de l'amiante. Mais c'était sur l'air d'avoir de l'amiante. Mais ça voulait tout dire et rien dire. On n'avait aucune idée si ça mettait 30 ans pour se déclarer. J'allais dire, le vrai problème avec l'amiante, c'est que quand vous touchez quelque chose qui vous donne une brûlure ou des boutons, vous faites tout de suite la relation entre la cause et l'effet. Mais l'amiante, vous êtes dans l'amiante, et comme vous serez malade en principe 30 ans après... Donc, il n'y a pas la sanction immédiate et il n'y a pas cette relation. Et c'est pour ça aussi que les choses sont tellement diffuses, tellement compliquées, et que les gens disent « Mais non, tu vois bien, moi... » Et puis, en plus, quand même, on parlait quelquefois de « Il paraît qu'elle est malade. » Mais à peine. Mais comme le médecin nous a jamais rien dit.
Le médecin du travail.
Oui. N'a jamais dit un mot. Quand on passait la visite, la visite d'embauche, il ne vous parlait pas de rien, jamais. Personne ne vous a jamais parlé de rien, donc vous vous dites un peu bêtement, sûrement naïvement, en disant si c'était vrai, que c'était dangereux comme ça. Quelqu'un l'aurait bien dit ? Et non, personne ne l'avait dit. Et ce n'était pas la preuve que ce n'était pas dangereux.
L'amiante, considéré comme un miracle industriel, a été exploité comme anti-feu ou isolant durant tout le XXe siècle. Malheureusement, la fibre minérale peut engendrer deux types de pathologies graves. Exposée à de grandes quantités d'amiante, on risque une asbestose, c'est-à-dire des insuffisances respiratoires qui peuvent conduire à la mort. C'est la maladie des ouvriers de l'amiante. Par ailleurs, quand on est exposé même à de très faibles quantités d'amiante, on peut développer 30 ou 40 ans après un cancer des voies bronchopulmonaires ou un cancer de la plèvre, appelé mésothéliome. Ces maladies, pourtant bien décrites dès la première moitié du XXe siècle, n'ont suscité jusque-là aucune réaction particulière, ni de la part de l'industrie, ni de la part des pouvoirs publics. Quant aux médecins du travail, employés par les industriels, il est souvent compliqué pour eux de s'engager auprès des ouvriers. Nous sommes en 1976. La crise économique met à mal la survie de l'usine d'amiante à Misol, menaçant 271 emplois.
Alors le dépôt de bilan d'Amisol s'est fait le 14 décembre 1974 et on s'aperçut que l'entreprise allait être fermée. Donc on a occupé.
C'était l'emploi ? C'était la bataille pour l'emploi. La bataille d'Amisol de 1974 est née à la suite de la fermeture, c'était l'emploi. C'était l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et donc, bien sûr, ces formes de lutte, puisque socialement, la société, c'était un petit peu différent. Il y avait une autre force syndicale. J'allais dire, l'air du temps était quand même différent. Il y avait aussi énormément d'usines occupées en France. Il y avait une lutte pour l'emploi assez importante. Donc, les gens se sont mis à occuper à Misol pour ça. Parce qu'il voulait bosser dans une usine de merde pour un salaire de merde, mais il voulait bosser parce qu'un homme qui bosse pas, une femme, pareil, quelqu'un qui bosse pas, il n'existe pas beaucoup. Et donc, voilà, c'était ça le problème. Donc, il y a eu l'occupation. Et puis après, chemin faisant, il s'est passé d'autres choses. Parce qu'à l'autre bout de la France, à Paris, à Jussieu, il y avait Henri Pezera, qui, sur sa paillasse, dans son labo, trouvait des particules et se demandait ce que c'était. Et puis a trouvé que c'était de l'amiante, et comme il était scientifique et qu'il avait l'esprit curieux, militant, chercheur, et puis oui, curieux quand même, il a voulu savoir tout de suite, et il a lu en peu de temps toute la littérature internationale, et il a dit « l'amiante, ça tue ». Donc, et tout de suite, il a fait le tour de France. Henri, il a été à Condé-sur-Noireau, dans toutes les usines transformatrices d'amiante, où l'amiante, c'était vraiment comme un tas de foin, là, presque. Et il a fait le tour de France et il a rencontré les travailleurs pour les alerter. En gros, et c'est comme ça qu'il a atterri à Clermont. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré, quoi.
Chantal Perrichon travaillait à l'université Jussieu dans les années 70.
Je me suis trouvée immergée dans un groupe où il y avait un leader, très clairement, il s'agissait d'Henri Pezera, qui d'entrée de jeu, parce qu'il était compétent, parce qu'il avait les connaissances, parce que c'était véritablement quelqu'un qui avait un niveau d'exigence très important, aussi bien pour ses collaborateurs, ses amis, militants ou pas militants, exigeait de vous en contrepartie le maximum. Nous, on était touchés par le flocage à l'université. On avait la chance d'avoir accès à la connaissance, mais on a su très vite que les ouvriers, eux, n'avaient pas accès à cette connaissance. Certains, oui, mais de façon très parcellaire, un sentiment de danger, bien évidemment. Et nous pouvions faire bénéficier ceux qui souffraient en première ligne, qui étaient vraiment les fantassins de la mort, quoi, qui allaient au travail pour soi-disant gagner leur vie, mais c'était surtout la perdre. On avait véritablement le sentiment de caste et de gens qui étaient vraiment réduits au mépris le plus absolu, qui ne bénéficiaient pas simplement de la protection de la médecine du travail, quoi. C'était, ça n'avait pas cours. Donc pour nous, il était urgent d'agir.
Et donc cet engagement, cette lutte, elle commence dans les années 70 à Jussieu, avec ce petit groupe qui s'appelait le collectif intersyndical de Jussieu. Et comment vous avez su que Jussieu était floqué à l'amiante ?
Alors simplement, il y avait de la poussière sur les appareils, et il y a toujours, disons, dans une communauté scientifique, des esprits curieux. De la poussière, qu'en est-il de cette poussière ? Qu'est-ce que cette poussière ? Eh bien, évidemment, des gens comme Henri Pezra étaient capables d'analyser la poussière, hein, microscopie électronique, et de voir qu'il s'agissait d'amiante. Or, Pezra, de par sa formation et de par sa spécialité, était capable, bien évidemment, de diffuser la dangerosité de ce produit. Et je pense que le travail essentiel et le résultat essentiel de ce groupe, c'est d'avoir d'abord su entraîner des gens. Il y avait ce petit noyau dur, mais il y avait d'autres gens qui se sont greffés. Il y avait 20-30 personnes qui étaient vraiment là en train de travailler ensemble, puis entraîner les autres. Eh bien, ça a été de faire que le terme d'amiante soit connu de toute la France. Cette transmission de l'information est essentielle, parce qu'on peut être un scientifique de très haut niveau, être incapable de transmettre ses connaissances. Or là, il y avait une urgence de la transmission de l'information.
Oh, Henri, c'est difficile à définir. Quand je l'ai rencontré, moi, la première fois en 76, j'étais un peu paniquée de rencontrer un savant.
Marie-Jeanne Auturquin.
Quand il est arrivé, d'ailleurs, on a été un peu surpris parce que c'était quelqu'un de très simple. Nous, on s'attendait à avoir un monsieur en costume et tout ça, et il est venu en jean, normal, polo, jean. Quand il est arrivé, il a vu tout de suite qu'on était complètement innocent par rapport à tous les risques. Puisque naturellement, on a été dans les ateliers pour parler avec lui, et il y en avait partout. Alors donc, on poussait une chaise, on s'assoyait dessus, on regardait pas, quoi. Et il s'est aperçu tout de suite qu'on n'avait aucune information par rapport à ça. Et il a commencé à nous dire que l'amiante, c'était un minéral, que c'était dangereux, qu'il y avait des poussières. Enfin, il ne savait pas trop comment, au départ, nous dire carrément. Et à un moment donné, je crois que c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, écoute, dis carrément ce qu'il y a, quoi. Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, mais bon. Et il nous a expliqué vraiment la maladie, la mort, tout ça avec l'amiante. Donc, on a dit, bon, mais nous, on ne peut pas garder ça pour nous, mais on ne sait pas comment l'expliquer aux autres qui sont présents ici, quoi. Parce que on pouvait pas déjà, nous, le digérer, ça. Et en plus, il fallait qu'on le donne aux autres, alors ce n'était pas possible. On lui a demandé s'il pouvait faire une information à tout le monde. Et il a donné l'information avec des mots très simples. Il a donné des explications que tout le monde pouvait comprendre. Et ça, c'est important parce qu'on avait beaucoup d'émigrés. Donc, il a expliqué très simplement les choses. Et quand il est parti, on s'est un peu tous regardés. Et puis, moi, je me rappelle, il y en a deux ou trois qui ont dit « Oh, c'est des savants, ils nous racontent des conneries
». Il y avait un petit problème, quoi. Nous, on se battait encore pour l'emploi. Je me souviens, on avait fait une espèce de conférence de presse à un moment, on était au juin, et nous, on continuait à se battre encore pour la réouverture de l'usine. Et il y avait Henri qui lui parlait de l'amiante.
Josette Roudet.
Et qui nous entendait parler, et on voyait bien qu'il y avait ce décrochage. Mais il l'admettait, parce qu'on était dans une situation différente. Lui, il arrivait, d'ailleurs, il le dit dans le livre.
Danger amiante ?
Oui. Il le dit, moi j'arrivais là, différent d'un autre monde. J'étais pas pris par nous, l'emploi est vital. Et lui, il n'avait pas le même regard par rapport à ça, puisque lui, il était chercheur. Il était... Et donc, il le dit d'ailleurs, les gens de Jussieu avaient l'esprit libre. Ils pouvaient parler de l'amiante, ça risquait de pas bouffer demain. Et donc, il y avait cette différence fondamentale. Et entre Henri et nous, il a fallu du temps pour installer la confiance et pour se comprendre complètement, puisqu'on était issus, entre guillemets, de deux planètes différentes. Il a fallu du temps pour se retrouver et complètement se comprendre et que chacun intègre le vécu de l'autre.
Deux livres écrits par le collectif Sécurité des universités Jussieu et par des ouvriers de l'amiante paraissent chez Maspero en 1977. Dans le deuxième, Plus jamais ça, page 29, Henri Pézra écrit: la première fois que nous sommes allés à Clermont-Ferrand, nous avons rencontré une quinzaine d'ouvrières et d'ouvriers dont beaucoup étaient malades. Reconnaissons qu'alors nous n'avons pas osé tout dire sur les risques qu'ils encouraient. Nous avons beaucoup hésité, cette fois-là et même les suivantes, mais il fallait parler. Tout normalement, les ouvrières et les ouvriers avaient en tête une idée prioritaire, la réouverture de l'usine, seule perspective pour en finir avec le chômage et la misère. Il nous a fallu dire qu'à notre avis, vu son état, l'usine ne pouvait, ne devait plus rouvrir, avec pour seul argument leur santé, leur vie, dont pourtant eux seuls étaient comptables. Et quel droit avions-nous d'intervenir sur ces questions, avec le risque de créer la peur, l'angoisse, alors que nous cherchions à susciter la lucidité et le courage? De cette réunion, comme des quelques autres qui ont suivi, nous sommes repartis, disons la vérité, abattus, écrasés parfois par les difficultés rencontrées. Puis le temps a passé. Peu à peu, après quelques difficultés, après quelques faux pas réciproques, nous avons trouvé les uns et les autres les chemins de la confiance.
Et c'est pour ça que, j'allais dire, le discours d'Henri, il faut un petit peu de temps, enfin je dis le discours, c'est pas le mot, les propos, les révélations entre guillemets d'Henri, il faut un peu de temps pour digérer tout ça, puis prendre même, le recevoir c'est une chose, mais après prendre la mesure et plus se battre pour la réouverture de l'usine et se battre pour des examens médicaux. Et même on n'en était pas au stade, sûrement pas dans ces années-là, demander l'interdiction. Pas du tout. Donc il faut du temps. Les choses qui ont toujours existé, pour les remettre en cause, c'est pas illico, c'est pas spontané. Parce que si l'amiante tue, donc faut fermer l'usine. Si l'usine ferme, faut plus travailler. Il faut chercher du boulot ailleurs, mais il n'y en a pas, puisque ça ferme partout. Et ça, ça en faisait des difficultés en cascade, qu'il fallait que notre esprit, qu'on intègre tout ça et qu'on trouve une porte de sortie.
C'était la fin des Trente Glorieuses, c'est ça?
C'était la fin. Et c'était la fin, et Giscard venait d'être élu, il était de chez nous. Tout allait bien. On avait Giscard, la fermeture de l'usine, le chômage partout, et voilà. Et on nous disait, c'est la crise pétrolière, le premier choc pétrolier. Et alors nous, c'était pas le choc pétrolier, c'était le choc de l'amiante. Il faut reconnaître qu'Henri était très pédagogue quand même, avait une facilité à comprendre les gens et à les faire cheminer. Et donc, il nous a fait compter les morts. Depuis la fermeture de l'usine, en nous disant, ben, parce qu'on parlait des gens, on disait oui, mais il est mort, et machin, il est mort, et celui-là aussi est bien mort. Et un beau jour, Henri a dit, mais il faudrait. Combien il y a eu de morts depuis la fermeture? Et il a fallu recompter et faire ce petit travail de mémoire qui n'était pas de la mémoire d'un siècle. Hein.
C'était quelques années.
C'était deux ans.
Oui, de 3 ans.
Et donc, il a fallu qu'on a compté, et on s'est rendu compte. Parce que quand il y a des gens qui meurent dans une usine, ça continue toujours, ça. On dit, ouais, mais il devait fumer, celui-là. Oh, ne déconne pas avec ce qu'il fumait. Et celui-là, t'as vu ce qu'il buvait. Et celui-là, il paraît quand même que chez lui, il y a eu beaucoup de cancer. Et chez lui, celui-là. On arrive toujours, on a intégré aussi cette histoire à la con, que les gens se prennent pas bien en charge. Et donc, il faut aussi, au niveau de la santé, remettre en cause l'ordre établi et le patron. Il doit y être pour quelque chose. Et ça ne se fait pas spontanément parce qu'on a toujours cette tendance. On avait intégré, je pense, pas nous, hein, la société et la classe ouvrière, comme on dit, avait intégré cette idée que le travail, eh ben, ça mutile un peu. Hein. Les mineurs, on te dit, tu te mets un coup de marteau, c'est le métier qui rentre. C'est normal. Les menuisiers, il leur manque des doigts. Voilà. Et on a habitué les gens à ce que le travail mutile, et c'est presque viril, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, si les gens perdaient leur santé, ça faisait partie des choses normales. Et donc, cette idée-là, remonter ça, déconstruire cette idée que tout le monde avait plus ou moins intégrée, c'est pas si simple que ça, quand même. Ça en fait faire un chemin dans la tête. Et donc, c'est tout ce chemin-là qu'on a fait avec Henri, en fait. Quand on a recompté les morts et on s'est rendu compte qu'en quelques mois, quelques petites années, là, il y en avait plusieurs. Je crois qu'il y en avait 12 ou 13, je ne me souviens plus. Mais
il y en avait 12 avec incarnation.
Peu importe. Mais ce travail de dire, ils sont morts et cherchons bien, qu'est-ce qu'il avait celui-là? C'était l'amiante. Et celui-là, ben, c'était l'amiante aussi. Et celui-là, certes, il avait ses trucs à lui, mais c'était c'est vrai qu'on dit il fumait. Mais s'il n'avait pas fumé, ben c'était pareil, puisque l'amiante, c'était bien pire que quelques clopes. Et donc, il a fallu qu'on trie tout ça. Et c'est ce chemin-là qu'on a fait avec Henri. Et pour moi, c'est ça qui est le plus fort, bien sûr.
Pourquoi faire la recherche de Dieu sans arrêt, si vous voulez? C'est la question que moi, je pose. Pourquoi faire la recherche si on ne sait pas? Bon, c'est intéressant avant. Je dirais, avant que je me sois lancé là-dedans, j'ai fait des trucs. C'est intéressant pour l'esprit d'arriver à comprendre des phénomènes. Bon, c'est extrêmement intéressant. Mais ceci dit, ça apporte quoi? Ce que j'ai pu faire avant en science, ça apporte quoi à la société? Que dalle.
La voix retrouvée d'Henri Pézerat, qui s'entretient avec Stéphane Melay et Julien Luçon en 2008 pour la revue Mouvement.
La connaissance sur les argiles, les structures d'argile que j'ai pu faire, ou les structures d'autres matériaux, ça remplit des bouquins, puis donc ça augmente, comme disent les partisans de la recherche, ça augmente le bilan de la connaissance, ok, bon, mais donc un jour ça sert à quelqu'un d'autre pour avancer un peu plus loin, puis c'est tout. Mais la science, avec une idée, on apporte quelque chose à la société humaine pour que, disons, les gens en bas, moi en particulier au niveau travail, ça n'existe pas au niveau du CNRS.
D'où lui venait ce souci de prendre contact avec le monde du travail, les syndicats, ce souci militant, il l'avait déjà avant?
Oui, bien sûr.
Pierrette Pézerat.
Bien sûr qu'il l'avait, oui.
Épouse d'Henri Pézerat.
Il l'avait. Je pense que c'est autour de ses 18-20 ans, quelque chose comme ça, qu'il a dû prendre conscience un peu de ce qui lui apparaissait comme des injustices sociales, quoi.
Il vient de quel milieu, en fait, Henri Pézerat?
Lui, il vient d'un milieu de petits commerçants, on va dire très conformistes. Son père était un ancien combattant de la guerre de 14, un peu pétainiste sur les bords. Voilà, c'était... il a pas poursuivi dans la même voie.
Et vous savez pas quel a été l'élément déclencheur de cette rupture avec les idées politiques de la famille?
Je pense que c'est le contact avec le milieu étudiant. Et je sais qu'il avait été influencé par peut-être une ou deux personnes, je ne sais pas, peut-être davantage. Mais là, je ne le connaissais pas. Donc c'est un vague souvenir que j'ai, parce qu'il avait eu une primo-infection. Et il est allé dans un sanatorium à Hauteville, je crois. Et là, il a dû rencontrer, vous savez, de ces jeunes hommes, mais plus vieux que lui, qui avaient été peut-être résistants, qui étaient communistes ou sympathisants à l'époque. Voilà. Il est entré, si vous voulez, dans des revendications étudiantes. Alors, c'était une époque où... il y avait très, très rapidement les guerres coloniales, il y avait pas mal d'événements politiques, si vous voulez, qui avaient trait à la guerre froide, au colonialisme, etc. Voilà. Et il y avait un mouvement qui faisait que beaucoup de jeunes gens se sentaient attirés par le communisme, ou au moins par une autre politique. Il a eu de la peine à trouver son premier travail. Parce que lorsqu'il a eu fini ses études à l'école de chimie de Lyon, il devait faire un stage. Et il a fait un stage dans une grosse entreprise, je pense que c'était Saint-Gobain. Il me semble que c'est à Saint-Auban. Et je me rappelle avoir reçu des lettres dans lesquelles il me disait qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des discussions avec le milieu des ingénieurs qu'il trouvait très réactionnaire. Et finalement, son stage, eh bien, s'est soldé par... il aurait pu être peut-être embauché, mais non. Manifestement, il ne convenait pas à la direction. Donc, il a réussi à entrer à l'Institut des recherches chimiques de l'État, qui dépendait en partie de l'armée, du ministère de la Défense. Mais bon, il a dû quitter l'IRSCHA parce qu'il avait fait signer une pétition contre l'engagement de la France dans l'aventure de Suez. Ça, c'est autant que je me rappelle, dans 1956. Et là, ça n'a pas pardonné, c'est-à-dire qu'à l'IRSCHA, on ne l'acceptait plus. Donc, il avait un ancien chef de service, qui est Jacques Méring, qui était entré au CNRS et qui avait un labo, qu'il a pris dans son labo.
Alors, j'étais rentré au CNRS, moi, pour faire... Je faisais de la recherche académique. J'étais, pendant un temps, un des spécialistes mondiaux dans l'étude des structures et des propriétés de surface des argiles. Vous voyez que ça n'avait rien à voir. Sauf que les argiles... dans les argiles, je connaissais le chrysotile, c'est-à-dire l'amiante, etc. Je savais ce que c'était. Et à partir de là, quand j'ai commencé les discussions avec les spécialistes français de l'amiante, en particulier Jean Bignon, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi l'amiante est cancérogène? Il me dit, bah, c'est les fibres, alors ça pique les cellules, etc. Oh, c'est pas sérieux. Hein. Moi, en tant que scientifique, j'en voulais... C'était des raisonnements élémentaires qui ne satisfaisaient pas. On sentait qu'on avait en face de nous des gens qui n'étaient pas foi au plan scientifique. Bon, et à partir de là, moi, j'ai complètement changé l'équipe que je dirigeais. Je l'ai amené à prendre complètement le virage et on s'est mis à devenir, je dirais, la première équipe, je pense, au monde à avoir comme spécialité ce qu'on appelle la toxicochimie inorganique, c'est-à-dire des matériaux minéraux. La toxicochimie, ça veut dire comment on explique au plan chimique que tel ou tel produit est toxique. Pour autant qu'on avait les moyens, on était une petite équipe complètement marginalisée dans l'institution scientifique parce que je ne me rattachais à aucune ligne. Si vous voulez, quand le CNRS un jour m'a demandé de me classer dans une ligne, une liste qu'ils avaient faite de toutes les disciplines possibles, et moi je ne suis pas arrivé, bon, j'étais complètement à la jonction de la physique, de la chimie, de la toxicologie. C'est pour ça qu'un jour je me suis dit après tout, je vais me baptiser toxicologue.
Il faut se dire quand même si ça a duré à Misol, ça a duré, allez, 60 ans hein, presque.
Josette Rouder.
Quelques mois après, quelques années, c'est pas le problème. Si à Misol a duré 60 ans, dans l'amiante, avec des poussières d'amiante extraordinaires, puisque maintenant, on parle de 0,5 fibre litre, on parle de quelques unités. Et nous, il y a eu des moments, on a retrouvé des PV de... des notes de prélèvement, 2 millions de fibres litres. 2 millions et 0,5 ou 5, c'est pas pareil. Et ça, c'est la preuve que les solutions, elles viennent pas des corps constitués ou des administrations. Si les gens qui bouffent l'amiante et qui en crèvent disent rien, eh ben c'est pas les autres qui vont dire. C'est pas les toubis, c'est pas les contrôleurs, c'est pas personne. Voilà, ça c'est sûr. S'il n'y a pas une pression désintéressée, eh bien, j'allais dire, les gens qui sont... Les autres, ils fonctionnent. Hein. Les fonctionnaires fonctionnent et les ouvriers ouvragent. Voilà. Et c'est à partir de là, quand ce cheminement-là s'est fait, que tout a été emboîté, j'allais dire, ben on a pu partir et travailler de façon extraordinaire parce qu'en fait, à Misol et Jussieu, Henri et nous, plus exactement, Henri avait le savoir et nous, on avait le vécu. Et il fallait que le vécu expliquait le savoir, le savoir confortait le vécu. Mais il fallait qu'on mette ça ensemble. Sans Henri, on n'aurait rien pu faire. Et Henri, avec la science et le savoir, sans la preuve, n'aurait pas pu avancer pareil. Donc il fallait vraiment, cette lutte, c'est une histoire extraordinaire au sens où c'est la rencontre qui fait que l'amiante, ça devient une bombe. S'il n'y avait pas eu Henri et nous, ce n'était pas une bombe. Et avec le savoir, le vécu et notre courage commun, notre militance commune, eh ben on pouvait, des années après, l'amiante est interdit, mais c'est parti là.
Chronologie simple, août 1976, entre deux séjours de vacances, Henri me confie une liste qui était tout ce qui avait été floqué par Isomaco. Il me dit, écoute, jette un œil là-dessus, essaie de voir si tu peux effectivement vérifier si dans ces flocages, il y a bien de l'amiante, essaie de contrôler.
Isomaco,
c'était une société qui faisait des flocages, disons, à base d'amiante. Donc, on se doutait bien qu'avec la liste, on allait tomber sur quelque chose d'intéressant. Et là, précisément parce que vous m'avez mobilisée sur ce sujet, dans ce dossier que j'ai retrouvé hier, j'ai retrouvé la liste.
Chantal Perrichon, militante à Jussieu dans les années 70.
Alors, la liste en question, voilà. Donc, elle est historique. Elle est un peu grise, je dois le dire, mais on voit immédiatement les références. C'est Isomaco, qui était à l'époque qui logeait Faubourg Saint-Honoré dans le 8e. Et là, aux découvertes, on s'aperçoit que la Tour Esso, Nobel, Air France, parking de l'ambassade du Japon, l'ORTF, ici les Moulineaux, faculté des sciences de Jussieu, bien évidemment, ça on le savait, des églises également, l'église de Châtenay-Malabry. On s'aperçoit que la RATP, bon, brusquement, c'est un choc. On se dit, c'est pas possible, il faut aller vérifier.
Tout est floqué à l'amiante.
On s'aperçoit qu'on est vraiment dans un environnement où une foultitude de bâtiments, et là, il s'agissait d'une petite liste d'un établissement floqueur, entre guillemets. Donc, on s'aperçoit que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait nous imaginer. Donc, armé finalement de mon seul culot de l'époque, hein, puis quand on est dans un groupe, on y croit. Donc j'ai envoyé une lettre dans un premier temps, que j'ai retrouvée d'ailleurs, aux relations extérieures de la RATP, en leur disant que voilà, on travaillait à Jussieu, on avait envie de regarder un petit peu, de voir les flocages, et je découvrais des stations qui pulsaient de l'air éventuellement à l'extérieur ou éventuellement dans le métro, selon les saisons, et qui étaient entièrement floquées du sol au plafond. Donc ça, c'était hallucinant. Donc à ce moment-là, je prenais un petit prélèvement, je mettais ça dans un petit sac plastique très correctement, je le mettais dans mon sac à main, je remontais à la surface, puis j'arrivais à Jussieu, et là, je disais à Henri, écoute, t'as plus qu'à analyser, ce qu'il faisait immédiatement dans la foulée. Et
il
là,
analysait dans son laboratoire.
Il analysait absolument, et là, il disait, mais voilà, c'est incroyable. Et donc, on avait effectivement la réponse, on était avec soit du chrysotile, soit de la crocidolite, l'amiante bleue dans le pire des cas, et là, dans les postes, alors je ne sais plus si c'était les postes de redressement, de mémoire, hein, vous me faites faire un bond de 35 ans en arrière, ou les postes à haute tension, mais on avait effectivement plusieurs types d'amiante. Donc pour nous, c'était le scandale absolu, il s'agissait du métro. Donc vraiment, on a rassemblé toutes ces informations, et on s'est dit, trop c'est trop, il faut faire une conférence de presse. On essayait, nous, de faire en sorte que le consommateur se réveille. Et avant de se réveiller, qu'il ait au moins la connaissance. Parce que la connaissance, les gens ne l'avaient pas.
Cette première conférence de presse donne à Henri Pézerat accès aux médias. Ici, face aux représentants de l'usine Ferrodo, à la télé, en 1977.
Je représente ici un collectif de 20 à 30 personnes qui travaillent depuis bientôt 2 ans sur ces questions. Et disons que notre information est effectivement assez complète, beaucoup plus complète d'ailleurs finalement que celle de la chambre patronale, à moins qu'il y ait des omissions volontaires dans celle de la chambre patronale, dans les informations qu'elle diffuse. Nous avons un retard en France absolument considérable et inadmissible. Depuis 1930, il y a une législation en Angleterre. Nous sommes en 1976, il n'y a toujours rien. C'est absolument incompréhensible, d'autant plus incompréhensible si on ne savait pas aussi les pressions considérables qui sont faites par l'industrie de l'amiante, justement pour empêcher la sortie de ceci. Et j'en donne pour
mais
exemple.
Mais monsieur Pézerat, regardez, et j'en donne pour exemple.
Et c'est sans doute une des raisons qui fait qu'on a écrit cet ouvrage, donc chez Maspero en 77.
Danger amiante.
Voilà, danger amiante. Il fallait qu'on, comment dire, que l'on transmette aux autres tout ce que l'on avait appris nous, qu'on fasse le point, parce qu'on avait en face de nous un lobby de la désinformation quand même. Hein, on n'avait pas en face de nous des gens innocents, on avait au contraire une industrie extrêmement puissante, mais qui, elle, faisait tout pour que ce danger ne soit pas connu. Donc, nécessité absolument impérative pour nous de dire « Attention, oui, danger amiante. »
En partie grâce à ce premier mouvement contestataire mené par le petit groupe militant de Jussieu et les ouvriers de l'amiante, en 1977, le flocage à l'amiante est interdit, mais toujours pas sa commercialisation. Et un décret est signé, instaurant pour la première fois des seuils d'empoussièrement à ne pas dépasser dans les usines. Henri Pezra revient sur cet événement en 2001 sur France Culture.
Le décret de 77 que nous avons obtenu suite à ces batailles qui ont commencé en 75 a introduit la valeur qui existait à ce moment-là en Grande-Bretagne, qui était de 2 fibres d'amiante par centimètre cube d'air. À cette époque, le collectif de Jussieu, auquel j'appartenais, a publié un communiqué disant qu'il s'agissait d'un décret alibi, le décret qui fixait cette limite, en ce sens que ça n'apportait absolument pas la réponse au danger, puisque, en gros, avec cette valeur, on était à peu près sûr de diminuer le nombre de fibroses, mais qu'en tout cas, ça ne jouait absolument pas sur les cancers. C'est-à-dire que le risque de cancer n'était pas diminué, ou très peu diminué, qu'on soit en dessous de cette valeur limite à 2 fibres centimètres cubes ou qu'on soit au-dessus. Donc, manifestement, là, si vous voulez, c'est l'exemple de ces valeurs limites qui sont tout simplement des résultats de compromis entre des acteurs sociaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des valeurs scientifiques, ce sont des valeurs résultats d'un compromis où on vous dit il est absolument indispensable qu'on puisse continuer à travailler, autrement on va fermer les entreprises, donc vous ne pouvez pas vouloir une telle chose. Et par ailleurs, vous voulez protéger donc la population exposée, donc on va diminuer un peu. Et finalement, il y a une cote mal taillée qui sort de ce genre de 2 fibres au centimètre cube. Donc il faut bien voir déjà que la plupart ou quasiment toutes les valeurs que l'on nous donne comme valeurs limites, que ce soit dans les sols, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, sont toutes ces valeurs sont le résultat de compromis sociaux. Ce n'est pas des valeurs scientifiques, c'est des valeurs qui se négocient entre adversaires, les uns animés par une logique de santé publique, les autres animés par une logique économique et purement économique.
En 1977, suite à ce décret, les mouvements de contestation de l'amiante cessent. C'est la fin de la première lutte contre l'amiante.
La société n'était pas mûre et les syndicalistes pas davantage pour mettre en cause, aller jusqu'au bout du raisonnement et remettre en cause l'utilisation de l'amiante. Et il y avait, nous on en avait pour une part, cette idée que la technique et la science pouvaient régler ce problème-là. On disait de façon un peu con, puisqu'on peut marcher sur la Lune sans risquer sa vie, on devrait bien pouvoir travailler l'amiante sans en mourir. Dit comme ça, ça semble joli, mais c'est la connerie à l'état pur. Vraiment à l'état pur, parce que l'amiante, dans la mesure où c'est imputrescible, ça va rester toxique et mortel tout le temps.
Henri Pezra et quelques militants de Jussieu reprennent leur combat pour la santé au travail, mais de manière plus générale, au sein du collectif Risques et maladies professionnelles, puis de l'Association pour l'étude des risques du travail, l'Alerte. Ils publient Les risques du travail pour ne pas perdre sa vie à la gagner, et accompagnent entre autres la lutte des mineurs de fer et de charbon, et celle des ouvriers des chantiers navals intoxiqués au plomb.
Alors c'était un père exigeant, chez qui quand même on sentait une certaine forme, on va dire, d'impatience. Il allait toujours très vite. Il remettait jamais les choses au lendemain. Donc, mais par contre, avec une qualité incroyable pour un père, c'est que si jamais on avait un projet, quel qu'il soit, il nous disait, il nous encourageait toujours. Donc quand on avait des projets, il nous disait, tu veux faire ça, bah vas-y, fais-le. Mais fais-le à fond. En fait, voilà, sa phrase, c'était ça. On ne peut pas faire les choses à moitié.
Et vous faites de la musique aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ce qui vous a transmis, la musique ?
Non. C'était pas un fanat de musique. C'était pas un fanat de cinéma. C'était pas un fanat de théâtre. Mais ça veut pas dire qu'il aimait pas. Simplement, je pense qu'il avait sa vie. Il avait mis des... En gros, voilà, j'ai du temps. Ma vie, c'est ça. C'est mon engagement. Enfin, c'est son engagement. C'était son engagement. Et c'est le reste, c'était pas superflu, mais... C'était pas ça, il avait pas de temps pour ça en fait. Il était pas. Il avait comme des urgences quoi. Et ces urgences le poursuivaient un peu tout le temps quoi. Je veux dire, son engagement politique et son combat militant, c'était ça, sa vie.
Et si vous voulez, il s'est créé tout un réseau de. Comment dire de, qui était à côté de la famille, hein. Donc, et puis c'était des gens qui étaient assez demandeurs, parce que c'était quelqu'un qui était capable de, par exemple, de vous faire un rapport pour, ou de vous aider à faire un rapport pour un délégué syndical, à trouver des arguments face aux réticences du patron. Enfin bon, voilà, il faisait aussi ce travail-là. Il écrivait des articles, il travaillait beaucoup, hein, beaucoup.
Et vous n'avez pas suivi ce combat-là ? Vous vous êtes...
Non, parce que moi, si vous voulez, justement, c'est pas quelque chose d'extrêmement facile. Je voulais aussi une espèce d'autonomie. Celle qui suit toujours, non ? Voilà, je pense qu'il y a des... Ça nous a éloignés, quoi, à partir d'un certain moment, voilà.
Vous, André Picot, qui étiez collègue d'Henri Pedra, comment ça se passait pour lui au sein du CNRS exactement ?
Ah, c'était très simple. Le CNRS est une maison très libérale. Et comme il était dans le secteur physique, moi j'étais dans le secteur chimie, il ignorait totalement. C'est-à-dire que tant... qu'il a été directeur de son unité, ils l'ont laissé tranquille, il réussissait à avoir des contrats, il faisait vivre ses chercheurs, il faisait de la très très bonne chimie, et donc ils l'ont laissé totalement tranquille. Mais lorsqu'il a pris sa retraite, eh bien, son unité a été désagrégée.
C'est-à-dire désagrégée ?
Eh bien, on ne lui a pas donné, avant qu'il quitte, on ne lui avait pas donné de personnel. Et les seuls qui lui restaient, qui étaient enseignants, sont partis refaire de l'enseignement.
C'est-à-dire Picot au CNRS, Rabach au CNAM, etc.
Henri Pézerin, archives 2008.
On n'a jamais pu obtenir les uns les autres des moyens qui assurent la pérennité des recherches en toxicologie. La toxicologie est une science que le patronat ne supporte pas, parce qu'effectivement, elle s'intéresse uniquement au revers de la science, c'est-à-dire aux emmerdements liés à tous les à l'industrie en général et à tous les polluants qui naissent effectivement d'utilisation de tel ou tel matériau. Quoi.
Je pense que Henri Pézerin est un, pour la toxicologie française, un grand méconnu. C'est-à-dire que il a fait des apports qui sont absolument essentiels, qu'il a fait quasi en parallèle avec ses collègues américains, mais qui ont été d'avoir une nouvelle approche de la toxicologie minérale, dans lequel les molécules elles-mêmes n'étaient pas les molécules qui étaient agressives, mais qui rendaient agressif un élément, par exemple, totalement, qui semblait totalement inoffensif, qui était l'oxygène de l'air. Et par l'exemple de l'amiante, il a montré que ces amiantes, en fait, fonctionnaient de la même façon que disent les chimistes, des catalyseurs supportés, c'est-à-dire vous avez un support inerte, c'est la fibre d'amiante. Sur cette fibre, vous avez des surfaces de catalyseurs qui se trouvaient, dans le cas des amiantes, des sels de fer réduits, ce que les chimistes appellent des sels ferreux. Et ces surfaces catalytiques sont capables de réduire l'oxygène, qui est omniprésent bien sûr dans les poumons, et donner après des produits toxiques, qui sont les produits de réduction de ce dioxygène, et déclencher ces réactions qui vont amener de l'inflammation, puis après à de la fibrose, puis après à des cancers. Et ça, c'est des concepts tout à fait nouveaux qu'il a amenés et qui n'ont pas été du tout pris en compte en France et qui, heureusement, ont été relayés, en particulier aux États-Unis. Et la toxicologie française, si à l'heure actuelle, elle est dans son état de décadence, c'est bien parce que des personnes qui avaient des idées, qui étaient vraiment des idées novatrices, ont été mises de côté dans des grands organismes comme le CNRS ou l'INSERM. Je suis méchant, hein?
Le pire, c'est que c'est vrai, tout ça.
France Inter, 1994, 17 ans après la première lutte contre l'amiante.
Nous sommes le lundi 22 août 1994, Intermatin, il est 7h.
Denis Lemarié.
L'amiante a peut-être tué de nouveau à Gérardmer, dans les Vosges. Une sixième personne ayant fréquenté le lycée professionnel de Gérardmer vient de décéder des suites d'un cancer. L'établissement est montré des doigts depuis de nombreuses années, car l'on a détecté des traces d'amiante dans l'un de ses plafonds. Le récit de Pierre Savary, de Radio France Nancy.
Comme cinq autres de ses collègues, ce professeur de mécanique est décédé d'un cancer. Comme cinq autres de ses collègues, il travaillait dans un atelier dont le plafond est recouvert d'une couche d'amiante.
En 94, il faut se dire qu'en France, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Bon, nous, c'est vrai que nous, on était toujours en contact. On n'avait pas cassé le fil entre nous. Donc, on avait toujours ça. On était dans notre tête toujours des amisoles, nous. On était restés des amisoles. Même si notre vie nous avait amenés ailleurs, on était toujours des amisoles. Comme il y en a qui sont de je ne sais pas où, de ce pays-là, ben nous, on était de là. Ça faisait partie de notre identité.
Et on se retrouvait toujours aux enterrements. Et c'était pénible de se rencontrer toujours aux enterrements, parce que, bon, c'est pas une situation normale, il faut reconnaître.
Et donc, en 94, il y a eu les professeurs de ce collège ou de ce lycée technique. Les veuves de Gérardmer ont commencé à mener le pétard par rapport au décès de leur mari, à la maladie de leur mari. Et c'était l'amiante. L'amiante refaisait surface, puisque finalement tout se remettait en place. On dit que l'amiante, il faut au minimum aller, ça peut être moins, mais c'est autour de 30 ans le délai de latence. Ça veut dire que le produit, au sens maladie, les maladies produites par les Trente Glorieuses où on avait bouffé de l'amiante, où on en avait touillé, importé, touillé, tant et plus, et ben ça y est, ça a attaqué. Ce qu'Henri avait dit, ben ça arrivait. Et les morts, il y en avait pas, ça commençait là, on les voyait. Et nous, on s'est dit merde, on avait ces enterrements bien sûr, mais on avait aussi dans la tête quand même ce suivi médical qui a jamais été fait, qui avait été fait une fois. Et puis personne, enfin, avait eu des résultats, mais qui voulait rien dire. Nous, on n'avait pas de suite de tout ça. Donc, on s'est dit, et nous ? Et tout est remonté. Ça se passe comme ça, des fois, dans la tête. Un truc vous fait tout remonter, puis on ne sait pas pourquoi, mais ça déclenche. Ça, c'est comme des luttes. Des fois, on dit, est-ce que ça va se réveiller ? On ne sait pas. Ça a l'air bien calme. Puis, des fois, il suffit de quelques trucs de travers. Et puis les rues sont pleines, et puis les gens disent qu'ils n'en peuvent plus. Et là, ça s'est passé un peu comme ça aussi. Gérard May et puis d'autres petits trucs comme ça nous ont fait remonter. Et on s'est dit, on peut pas laisser tous ces gens d'Amisole qui sont dans une espèce d'abandon social. Et maintenant, on voudrait bien savoir ce suivi médical. Et notre première lutte, ça a été, on s'est réunis, on a rappelé Henri en lui disant, on l'a rappelé. Et moi, je me rappelle, il était en retraite, mais il avait encore un bureau à Jussieu. Et j'ai appelé Jussieu. Et j'ai dit Henri. Et il m'a dit Josette. Et c'est reparti comme si on s'était jamais quitté. Et je lui dis, tu peux venir, c'est en février, on repart. Il a dit, j'arrive. C'était Sur les docks, Henri Pezra, l'homme de l'amiante.
Une émission de Guillaume Baldi et d'Inès Léraud.
Avec Josette Rouder, Marie-Jeanne Outurquin, Pierrette Pezra, Gilles Pezra, Chantal Perrichon et André Picot. Avec un extrait du film 100 000 cercueils, Le scandale de l'amiante, et un extrait de l'émission Terre à Terre de Russ Tegassi, ainsi que des entretiens avec Henri Pezra pour la revue Mouvement. Musique. Départ de Raphaël Marc et Piotr Moss. Don Quichotte d'Henri Purcell. Merci à Sylvie Catala, Annie Thébaumoni, Alain Lascoux, François Murat, Emmanuel Henry, Catherine Pozzo di Borgo et Nathalie Frigul. Archivina, Cécile Rogue, attachée d'émission Laure-Hélène Plancher et Christine Gedge, sur les docks, Inès Léraud, Guillaume Baldi. Must end the fair.